Bonjour à tous les Auroviliens. Alors aujourd'hui, je vais vous continuer l'idéal de l'unité humaine de Sri Aurobindo, traduit de l'anglais par Douce Mère. Alors le chapitre, c'est le résumé et conclusion, chapitre 35, page 442, en français. Le pouvoir sauveur dont nous avons besoin est le pouvoir d'un facteur psychologique nouveau qui simultanément donnera à l'humanité le besoin d'une vie unifiée et forcera à respecter le principe de liberté. La religion de l'humanité semble être la seule force en cours qui tende dans cette direction, car elle favorise le sens de l'unité humaine, elle a l'idée de l'espèce et pourtant, en même temps, elle respecte l'individu humain et les groupements humains naturels. Mais sa forme actuelle intellectuelle semble bien peu suffisante. L'idée pourtant puissante en elle-même et dans ses effets ne l'est cependant pas assez pour modeler la vie entière de l'espèce à son image. Elle doit faire trop de concessions au côté égoïste de la nature humaine qui constituait la totalité de notre être autrefois et encore maintenant, ses 9/10 contre lequel sa vaste idée est en conflit. En outre, parce qu'elle s'appuie surtout sur la raison, elle a naturellement tendance à faire appel à la solution mécanique. Or, l'idée rationnelle finit toujours par devenir captive de son mécanisme. Elle devient l'esclave de son propre procédé trop astreignant. Survient une autre idée, avec une autre tournure, dans sa machine logique, qui se révolte contre la première et brise le mécanisme, mais seulement pour y substituer finalement un autre système mécanique, un autre credo, une autre formule, une autre pratique. La religion spirituelle de l'humanité est l'espoir de l'avenir. Par là, nous n'entendons pas ce que d'habitude on appelle une religion universelle, un système, un credo, une croyance intellectuelle, un dogme ou un rite extérieur. L'humanité a essayé de réaliser l'unité par ce moyen. Elle a échoué et mériterait d'échouer. Car il ne peut y avoir de système religieux universel doté d'un unique credo mental et d'une unique forme vitale. Certes, l'esprit intérieur est unique, mais plus que tout autre, la vie spirituelle exige la liberté. La variété d'expressions et des moyens de développement. Une religion de l'humanité suppose la perception grandissante qu'il existe un esprit secret, une réalité divine, en laquelle nous sommes tous un. Que l'humanité est à présent sur la terre son plus haut véhicule, et que le genre humain et l'être humain sont les moyens par lesquels cette réalité se révélera progressivement ici-bas. Elle implique un effort grandissant pour vivre cette connaissance et instaurer sur la terre le royaume de cet esprit divin. Par la croissance de ce royaume en nous, l'unité avec nos semblables deviendra le principe gouvernant de toute notre vie. Pas simplement un principe de coopération, mais une fraternité plus profonde, un sens réel et intérieur de l'unité et de l'égalité, une vie commune à tous. L'individu doit comprendre que c'est seulement dans la vie de ses semblables que sa propre vie devient complète. L'espèce doit comprendre que c'est seulement dans la libre plénitude de la vie individuelle que sa propre perfection et son bonheur permanent peuvent se fonder. Il faut aussi une discipline et un chemin de salut en harmonie avec cette religion, c'est-à-dire un nouveau moyen qui permette à chaque homme de faire grandir cette force en lui-même, afin qu'elle puisse grandir dans la vie de l'espèce. Examiner tout ce que ceci implique serait un sujet trop vaste pour être abordé ici. Il suffit de suggérer que c'est une direction où se trouve la route finale. Sans doute, si ceci n'est qu'une idée, comme les autres, elle finira comme finissent toutes les idées. Si c'est vraiment une vérité de notre être, alors ce doit être la vérité vers laquelle tout s'achemine et en laquelle tous nous devons pouvoir trouver le moyen d'une unité humaine réelle, fondamentale, intérieure et complète, qui sera la seule base solide d'une unification de la vie humaine. Une identité spirituelle créant une identité psychologique sans dépendre d'aucune uniformité intellectuelle ou extérieure, qui imposerait une identité de vie sans être liée à aucun moyen mécanique d'unification, et qui serait toujours prête à enrichir sa solide unité par une libre variation intérieure et une expression extérieure librement variée. Elle serait la base d'un type supérieur d'existence humaine. Si pareille perception grandissait rapidement dans le genre humain, nous pourrions résoudre le problème de l'unification d'une manière plus profonde et plus vraie. En allant de la vérité intérieure aux formes extérieures, jusque-là, l'effort d'unification par des moyens mécaniques doit continuer. Mais l'espoir le plus haut de l'humanité dépend du nombre grandissant des hommes qui percevront cette vérité et chercheront à la faire grandir en eux-mêmes, afin que quand la pensée de l'homme sera prête à se libérer de son penchant mécanique. Peut-être quand elle découvrira que toutes ces solutions mécaniques sont temporaires et décevantes. La vérité de l'esprit puisse faire son entrée dans le monde et conduire l'humanité sur le chemin de la perfection et du bonheur les plus hauts. Aujourd'hui, alors, je reprends un autre chapitre, puisque j'ai terminé avec celui-là. Chapitre 28, la diversité dans l'unité. Il est essentiel de ne jamais perdre de vue les réalités et les pouvoirs fondamentaux de la vie si nous ne voulons pas être trahis par la domination arbitraire de la raison logique. Son attachement aux idées rigoureuses et limitatives et être entraîné à des expériences qui, bien que commodes pratiquement et captivantes pour une pensée unitaire et symétrique, pourraient bien détruire la vigueur de vie et appauvrir ses sources. Car ce qui est parfait et satisfaisant pour les systèmes de la raison logique peut cependant ne tenir aucun compte de la vérité de la vie et des besoins vivants de l'espèce. L'unité n'est pas du tout une idée arbitraire et irréelle. C'est la base même de l'existence. L'esprit en évolution dans la nature est poussé à réaliser consciemment à son sommet d'unité qui est secrètement la base de toute chose. L'évolution avance par la diversité. Elle va de l'unité simple à l'unité complexe. L'espèce humaine vers l'unité, et elle doit un jour la réaliser. Mais l'uniformité n'est pas la loi de la vie. La vie existe par la diversité. Elle exige que chaque groupe, chaque être, alors même qu'il est un avec tout le reste, en son universalité, soit néanmoins unique par quelques principes ou quelques détails de variation bien réglés. La surcentralisation, condition uniformité pratique, n'est pas une saine méthode de la vie. Certes, l'ordre est la loi de la vie. Mais une réglementation artificielle ne l'est pas. L'ordre salutaire est celui qui vient du dedans, parce qu'il est le résultat d'une découverte naturelle de notre propre loi, et de la loi de nos relations avec autrui. Par conséquent, l'ordre vrai est celui qui se fonde sur la plus grande liberté possible, car la liberté est à la fois la condition d'une variation vigoureuse et la condition de la découverte de soi. La nature assure les variations par la division en groupes et elle insiste sur la liberté en fortifiant l'individualité au sein des membres du groupe. Ainsi, pour être entièrement saine et en harmonie avec les lois profondes de la vie, l'unité de l'espèce humaine doit se fonder sur de libres groupements et ces groupements eux-mêmes doivent résulter d'une association naturelle de libres individus. Cet idéal est certainement impossible à réaliser dans les conditions présentes et peut-être même dans le proche avenir de l'humanité. Mais il ne faudrait pas le perdre de vue, car plus nous pourrons nous en rapprocher, plus nous serons certains d'être sur le droit chemin. L'artificialité de la majeure partie de la vie humaine est la cause de ces maladies les plus profondément enracinées. Elle n'est pas fidèle à elle-même, ni sincère avec la nature. Et par suite, elle trébuche et souffre. Alors aujourd'hui, je termine la lecture de l'idéal de l'unité humaine et le titre du chapitre 28, la diversité dans l'unité. Alors je remercie infiniment Sri Aurobindo et Douce Mère pour cette merveilleuse lecture qui va sans cesse grandissant dans mon âme. Merci Priya, Ganga Lakshmi, Savitri Bhavan, House of Mother, Agenda.
Oui, vous écoutez Auroville Radio from Auroville, la ville internationale in India.